Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bonjour à tous, ici Anna, micro de contre-soirée. On se retrouve pour l'épisode 12 du calendrier. Déjà, les amis, on est à la moitié officiellement, c'est aujourd'hui. On est à la moitié du calendrier contre-soirée. Déjà 11 épisodes, c'est le 12e. Je suis trop contente de ce que ça implique, de vos retours. Je trouve que c'est un projet qui me ressemble. Je m'épanouis dans ce projet-là. Je suis dans les tops des applications de streaming, donc ça me fait plaisir. Franchement, le podcast, je veux l'emmener au plus loin que je peux l'emmener. Mon but, c'est vraiment de voir tout ce que je peux faire avec ce projet-là et cette plateforme-là. C'est d'ailleurs, pour faire une transition, ce que j'ai fait tout au long de ma carrière, si je peux appeler ça une carrière. Je pense que je peux appeler ça une carrière. Et ce qui m'a amené aujourd'hui à être ma propre boss, à être indépendante financièrement depuis mes 18 ans, à gagner ma vie de manière complètement satisfaisante, à avoir ma propre société et à avoir plein de projets qui sont à moi, qui viennent de mon esprit, qui me bénéficient à moi et qui m'aident à construire mon avenir. Donc c'est un sujet que je voulais aborder parce que vous m'avez souvent demandé de vous parler de ça. Moi, c'est quelque chose, le travail indépendant et le travail entrepreneurial qui me parle énormément, qui m'intéresse énormément, de plus en plus d'ailleurs, plus je grandis, plus c'est un sujet qui me passionne. Et en plus, en tant que femme, je trouve que c'est super intéressant d'en parler, surtout que je pense que ça peut donner de l'espoir à plein de femmes qui m'écoutent, parce que mon message est plutôt un message d'espoir, entre gros guillemets. Moi, j'ai la chance d'évoluer dans un milieu où les hommes ne me cassent pas trop les oreilles, et du coup, je suis un exemple qu'une femme peut être indépendante et réussir professionnellement sans avoir trop de bâtons dans les roues de la part des hommes ou de la part des gens tout court. Donc c'est super, c'est vraiment super. Donc voilà, je voulais vous raconter mon histoire, vous raconter mon quotidien, vous parler de moi, comment j'en suis arrivée là. Je ne veux pas paraître prétentieuse et surtout, j'ai pas le syndrome de l'imposteur parce qu'on l'utilise à tort et à travers. Mais moi, j'ai eu la chance de faire carrière et d'avoir du succès dans un milieu qui me passionne et dans une activité que je considérais comme vraiment un hobby. Donc, j'ai jamais eu l'impression de devoir me casser la tête pour réussir. Et du coup, c'est là où mon histoire est un peu différente. Je sais qu'il y a plein de gens qui veulent créer leur business et qui galèrent pendant des années. Moi, j'ai eu la chance que tout se fasse assez naturellement. Donc, j'ai pas d'histoire de hesse, quoi. J'ai pas d'histoire de longues années de galère, mais mon histoire est quand même intéressante à écouter, je pense, et donc du coup je trouve ça trop cool qu'on parle de ça. L'épisode s'appelle Girl Boss 101, c'est en anglais un terme 101 pour dire le basique, les basiques, genre le B.A.B.A., la to-do, le truc simple, la base quoi, du sujet. Attention, le mot girl boss est un peu relou. Primark en a fait des t-shirts, Pinterest en a fait des fonds d'écran. Je veux pas être dans un cliché en mode « girl boss ». Mais bon, je suis une femme et je suis une boss, donc ça fait de moi une girl boss. Le but est de parler de travail et d'entrepreneuriat et de réussite en tant que femme, mais en tant que personne également. Je vous propose de nous lancer directement. Quelle était ma vision du travail quand j'ai commencé à y réfléchir ? Moi, j'ai toujours été une créative et une littéraire, entre guillemets. J'ai fait un bac L, mes matières préférées, ça a toujours été les langues. J'ai toujours apprécié l'anglais, tout ça. Et quand je réfléchissais au métier que je voulais faire, j'ai toujours réfléchi à faire du journalisme, parce que j'ai toujours aimé écrire. J'ai toujours aimé écrire et lire. C'est un truc que j'ai perdu en grandissant, c'est très dommage. Enfin, j'ai pas perdu l'amour de ça, mais j'ai perdu... je m'y consacre plus quoi, je passe plus du tout de temps là-dedans. Mais quand j'étais plus jeune, j'écrivais tous les matins un livre. J'ai vraiment écrit un livre dans mon enfance et je ne sais pas où il est actuellement, mais sur l'ordi de ma mère, j'écrivais genre des histoires, vraiment littéralement. Et puis j'ai toujours lu plein de livres quand j'étais petite. Je me levais à 5h du matin avant l'école pour lire des bouquins. J'ai lu le journal d'Anne Frank en vacances en une semaine. Enfin voilà, j'étais vraiment passionnée de lecture. J'ai appris à lire en moins une section. J'étais vraiment, genre vraiment, j'étais une littéraire. J'étais vraiment la meuf de elle. Mais du coup, j'ai arrêté. Je suis devenue youtubeuse. Donc j'ai perdu un peu ce côté intellect. Mais bref, du coup, voilà, je m'étais dit que j'allais devenir journaliste. Et puis j'ai découvert, l'influence. Enfin, j'ai pas l'influence. J'ai découvert YouTube quand j'étais au collège. J'ai créé ma chaîne. J'ai commencé par YouTube. Puis après, j'ai fait Instagram. Et en fait, je vous en ai parlé dans plein d'autres épisodes, peut-être que je vous ferai un épisode dédié sur ça, mais je crois que le sujet a déjà été abordé. En gros, ma carrière sur les réseaux, elle s'est auto-créée. En gros, j'ai fait des vidéos et j'ai fait des trucs sur Insta et tout pendant des années par plaisir. J'étais même blacklistée de YouTube, de la monétisation de YouTube, donc je ne gagnais pas un copec. Et puis quand j'ai eu 18 ans, donc 3-4 ans après le début de ma chaîne, les marques ont commencé à s'intéresser à ce truc qui ne s'appelait pas du tout l'influence à l'époque. Il y avait les blogueuses depuis un moment, mais du coup les marques ont commencé à capter Insta, YouTube et tout, à voir que c'était intéressant de communiquer par le biais des gens sur ces plateformes-là, parce que en fait, l'avantage d'un influenceur, contrairement à une pub télé, c'est que nous, on vous parle directement de personne à personne et on crée un lien de confiance avec vous. Quand je vous parle d'un produit, vu que vous me faites confiance, vous allez beaucoup plus m'écouter et faire confiance et acheter que si c'est juste une pub à la télé, impersonnelle et qui vous passe devant les yeux. Malheureusement, c'était le cas à une époque. Maintenant, des gens ont abusé de cette confiance et du coup, je pense que c'est presque l'inverse qui se produit, quoi. Il y a une vraie méfiance qui s'est créée autour des influenceurs, mais ce qui est dommage. Et moi, du coup, j'essaye vraiment de faire des collabs avec des marques auxquelles je crois, parce que je trouve que c'est une grande chance d'avoir une communauté qui m'écoute. En tant que personne, j'ai une responsabilité éthique et j'ai une conscience. Donc, j'ai envie de vous respecter. Et que pour que, en fait, je ne sais pas trop le sujet, mais pourquoi ça fait 10 ans que je fais ce que je fais, bientôt 11, et ça marche toujours autant, voire mieux, c'est parce que je ne vous prends pas pour des cons, je pense. Je vous prends pas pour des cons et du coup, mon authenticité fait que c'est simple de me suivre et c'est simple de me suivre sur beaucoup d'années. J'étudie souvent mon propre cas pour savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Et je sais que vous appréciez mon contenu sport, mon contenu cuisine, mon contenu mode, mon contenu musique, enfin voilà, mes conseils, tout. Mais vous appréciez surtout le fait que je sois une jeune femme de 25 ans, honnête et vraie avec vous, dans laquelle vous pouvez vous reconnaître. C'est ma DA, c'est ma ligne édito depuis 10 ans, d'être le plus vrai possible. Moi, ça me fait un gain de temps énorme parce que j'ai pas à faire semblant. Et vous, au moins, vous avez pas l'impression de vous faire rouler. Et du coup, mon contenu plaît et n'arrête pas de plaire, donc c'est génial. Mais bref, au moment, vers mes 17 ans, les marques ont du coup commencé à s'y intéresser et j'ai signé mes premiers contrats. Signer un contrat, c'est un mot vraiment beaucoup trop élevé pour ce qui se passait à l'époque. À l'époque, vraiment, c'était par virement PayPal, il n'y avait pas de contrat, vraiment, c'était à l'arrache. C'est qu'à partir de 2017, je crois que les marques ont commencé à demander des numéros de Siret pour être dans la légalité sur les factures. Et donc, j'ai dû créer mon auto-entreprise pour avoir un numéro de Siret et pour pouvoir faire des déclarations d'impôts, cotiser, tout ça, faire des trucs que je vais vous le raconter, mais je le faisais très mal. Mais bref, du coup, j'ai eu mes premières sommes d'argent qui tombaient ces années-là. Dès mes 16-17 ans, quand j'ai commencé à avoir besoin d'argent, j'avais des petits sous qui tombaient de l'influence. Donc pas énorme, mais j'avais quand même des payes YouTube et tout. J'ai quand même décidé de quitter la maison de mes parents à 18 ans, parce que j'avais envie d'être en ville et de vivre la vie. J'essaie de vous faire le parallèle avec mes études, ce qui est compliqué, mais bref. Moi, niveau travail, j'étais en mode, ok, je sais pas ce qui me plaît, mais YouTube marche bien, l'influence, entre guillemets, commence à bien marcher, mais je suis pas sûre de ce que ça va devenir et je suis pas sûre de vouloir faire ça toute ma vie. Donc, je vais faire des études pour pouvoir travailler dans l'avenir, si le besoin s'en fait ressentir. Et donc, j'ai commencé à faire une fac de LEA, parce que toujours dans l'objectif de devenir journaliste, c'est ce qui me semblait le plus se rapprocher de ce que j'aimais, donc LEA, langue étrangère appliquée, on parle anglais. Je savais que l'idéal aurait été de faire une école de communication, mais ça coûtait très cher et du coup je me sentais pas de demander ça à ma famille. Moi, je pouvais pas du tout me le payer, c'est des écoles qui coûtent très cher. J'ai commencé cette année de LEA, 18 ans et demi j'habitais seule et mes parents me payaient la moitié de mon loyer, donc ils me donnaient 300 euros par mois. Je pouvais du coup vivre par l'influence, mais quand même difficilement, donc j'ai fait mon seul job, en fait, enfin, mon seul petit boulot, ça a été de garder un enfant. Je gardais un petit garçon. Tous les soirs, j'allais le chercher à la sortie de l'école à 17h et ses parents rentraient vers 19h30. Donc voilà, je gardais un petit garçon tous les soirs pendant 2 heures toute la semaine. Et c'était, ça me rapportait 200-300 euros par mois. Et du coup, ça me permettait voilà, de pouvoir vivre simplement avec mon appart. Et en fait, tout s'est enchaîné très vite. L'influence a pris. Moi, pas tant que ça. Moi, mon audience continuait de grandir, mais à coup de 2-3 000 abonnés par mois, quoi. C'était pas une dinguerie. Mais par contre, l'influence a attiré énormément les marques. J'ai commencé à avoir des contrats mensuels. C'était vraiment très irrégulier. C'est toujours assez irrégulier, mais pour le coup, à l'époque, c'était vraiment, vraiment très irrégulier. Il y a des mois où je gagnais 300 euros. Il y a des mois où je gagnais 2000 euros. À partir de mes 19 ans, j'ai été complètement indépendante financièrement. Mes parents ne m'ont plus donné 1 euro. J'étais très très fière de ça. Mes parents ne m'ont pas demandé de... Enfin quoi, mes parents ne m'ont pas coupé les vivres, mais juste, je partais en voyage à travers le monde, invité par des marques, par des applis, enfin bref, pour des festivals. Je gagnais pareil, voire mieux que mes parents, et du coup, ça m'est semblé complètement évident d'arrêter de leur prendre de l'argent. C'est complètement logique. Donc voilà, à 19 ans, je suis indépendante financièrement, mais en fait, je sais pas si vous l'avez compris, tout ça, c'est un peu le fruit du hasard, entre gros guillemets. C'est un coup de chance, en fait, pour moi. C'est... J'ai eu cette passion qui m'a, en fait, rapporté de l'argent, mais sans que je sois en mode « Ok, je vais faire de ça, mon taf et tout », pas du tout. Et j'étais pas du tout carriériste. Juste, bah, j'aimais faire ça, et du coup, je le faisais. Et par chance, c'est devenu un business. Mais à l'époque, je n'étais pas carriériste, donc je gagnais ce que je gagnais, mais sans trop y réfléchir. Et surtout, je faisais très, très mal les choses. Donc ouais, mettez une jeune femme de 19 ans qui vient d'emménager seule, qui est plus intéressée par la fête et les garçons que par les impôts et les factures, qui doit gérer toute seule sa relation avec ses clients, c'était catastrophique. Je sais qu'il y a des femmes, des filles dans ce milieu qui ont été directes, très très bossy, très organisées et tout. Moi, mes parents ne m'accompagnaient pas du tout dans ça. Enfin, ça fait pas d'eux des mauvais parents, mais j'avoue que sur ce coup-là, ils ont pas été hyper pressants parce qu'ils pensaient que je gérais la situation, ce qui n'était pas le cas. Donc moi, j'avais créé mon auto-entreprise. Je n'avais pas compris du tout comment ça marchait, les déclarations de l'URSSAF et tout, parce que c'est une idée de business que j'ai eue là récemment, mais en fait, je le dis depuis des années, je trouve qu'il faudrait qu'on crée un truc si l'éducation nationale ne se sent pas de le faire. Soit donner des cours au lycée, aux ados, pour qu'ils comprennent comment on déclare ses impôts, comment ça marche l'URSSAF, comment ça marche l'auto-entreprise, bref. Donner des cours d'administratif aux gens, parce que je trouve que c'est lunaire, je ne comprends pas. Comment on comprend ? Je gérais en direct, j'étais pas du tout en agence, donc je gérais en direct avec ma boîte mail mes relations avec les marques, donc ce qui faisait que à 19 ans, je faisais le travail d'un agent, d'un comptable, d'un avocat, d'un commercial, d'un chef de projet, tout ça pour moi, je le faisais toute seule, parce que j'avais, je pense, 2-3 collabs par mois, donc ça allait encore, mais du coup je faisais de la négociation de contrats, je faisais de la lecture de contrats, donc je ne lisais pas mes contrats, autant vous le dire direct. Je faisais de la facturation, je faisais de la stratégie, c'est moi qui répondais en direct à la marque, bref, je gérais tout sur mes OP. À l'époque, je voyais plus ça comme des points de vie, et je voyais ça comme un jeu. Je voyais vraiment ça comme, enfin, hilarant, il y a vraiment une marque de montre qui me donne une somme d'argent pour faire des photos et faire du contenu autour de ça. J'ai toujours vu ça comme un truc sérieux et où je faisais les choses bien, parce que mon image est très importante pour moi et que je voulais pas passer pour une guignole, mais j'avoue que je voyais vraiment ça comme un jeu et je me disais, bah, c'est génial, quoi, mais bon, je jouais et du coup, des fois, je jouais pas très sérieusement, ce qui faisait qu'il y a des marques avec qui j'ai bossé à l'époque qui m'ont vraiment catégorisé comme cata et avec qui j'ai rebossé actuellement qui sont en mode, bah, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est extraordinaire cette évolution d'organisation et de professionnalisme, parce qu'à l'époque j'étais pas du tout professionnelle, parce que à la fois je devais gérer tout ça seule à 19 ans avec des études à côté, donc voilà, je faisais comme je pouvais. Involontairement, ça m'a appris plus ou moins la rigueur, ça a pris du temps mais ça m'a appris plus ou moins la rigueur, et ça m'a appris à être plein de choses à la fois et à faire plein de métiers différents sur le tas. Voilà, j'ai vraiment appris sur le tas et je me débrouillais comme je pouvais, sauf que malheureusement j'ai très très mal géré mon administratif et ma comptabilité, quoi. Donc j'ai dû, je pense, passer à côté de plusieurs centaines d'euros parce que j'ai mal lu les contrats. J'ai dû, voilà, me faire niquer sur 2-3 termes. Et puis surtout, j'ai mal déclaré mes rentrées d'argent parce que je ne comprenais rien à l'URSSAF. Je vous l'ai déjà dit, mais moi, j'ai la technique de l'autruche. Donc quand je comprends pas quelque chose, je préfère mettre ce quelque chose sous un tas de sable et tourner la tête. Et donc voilà, je recevais mes lettres de l'URSSAF concernant mon auto-entreprise et je les mettais dans une boîte et je n'ouvrais plus cette boîte, voilà. Sauf qu'en fait, ça a duré pendant 2-3 ans et un jour, il y a un huissier de justice qui s'est pointé chez moi et qui a dit « Madame, vous gagnez de l'argent et vous ne le déclarez pas, vous faites très mal les choses, donc donnez-nous l'argent ». Donc j'ai eu un redressement. Donc un jour, mon père m'a appelé, il m'a dit, mon père avait l'œil sur mes comptes. M'a appelé, il m'a dit « Anna, il n'y a plus d'argent sur ton compte en banque, tu sais, normal. » Et je me suis rendu compte que l'État m'avait prélevé 7000 euros parce que je déclarais mal. Voilà, je pense que je ne devrais pas forcément vous raconter ça, mais je vais quand même le faire parce que je trouve que c'est important. Sur le sujet des girl boss, t'as l'impression que les meufs sont Elon Musk, ont toujours su gérer ça. Non, ça s'apprend, je trouve, et ça s'apprend parfois en faisant des très très grosses erreurs. J'ai fait des très très grosses erreurs et j'ai payé le prix cher. Je voulais vous déculpabiliser. Ça n'est pas inné. Moi, j'ai l'entrepreneuriat inné, la créativité innée, mais je n'ai pas du tout l'organisation et tout. Pour moi, c'était vraiment pas du tout un truc simple. J'ai pris tarif parce que j'étais pas forcément une girl boss à 19 ans, en fait. Pas du tout, d'ailleurs. Je fais cette année de fac, à la fois j'ai mon auto-entreprise, et en fait, je me rends compte que la fac ne me plaît pas du tout. J'en parle beaucoup avec ma famille, parce que en fait, ma famille m'a toujours drivé pour, non pas que je fasse des métiers qui rapportent de l'argent, mais pourtant que je fasse quand même quelque chose qui me plaît, qui me rend heureuse. Je vous l'ai dit dans un épisode récemment, mais moi, on m'a toujours inculqué que fallait faire ce qui te rend heureuse dans la vie. Pour gagner beaucoup ou pas beaucoup d'argent, c'est pas la question. Il faut que tu te lèves le matin en étant joyeux de faire ce que tu vas faire. Et ma famille voyait bien que c'était pas du tout le cas, à la fac, quoi. Donc j'en ai parlé un jour avec mon grand-père qui m'a dit « T'as envie de faire une école de communication ?» Parce que c'est vrai, moi, je savais qu'en fait, ce qui me plaisait à l'époque, je commençais à comprendre que YouTube et l'influence et tout, ça se rapprochait. Moi, avec mes 1000 casquettes, je me rapprochais des métiers de la communication. Et qu'en étant community manager pour moi-même, chef de projet pour moi-même, je faisais de la com. Et donc, que ce qui m'épanouirait le plus, ce serait une école de com avec beaucoup de pratiques et plus de pratiques que de théorie. Moi, la théorie, ça m'a toujours emmerdé. Genre, j'arrivais pas à suivre des cours pendant 4 heures. Mon grand-père a énormément travaillé dans sa vie. Il a été aussi un entrepreneur hors pair parce qu'il est rentré dans une usine. Ça me fait trop de peine de parler de lui. Il est rentré dans une usine en tant qu'ouvrier et il a gravi les échelons et il est devenu CEO. Il est devenu patron de cette entreprise, une des plus grosses entreprises de textile de mon département. Et du coup, il a très bien gagné sa vie, toute sa vie, enfin pendant une grosse partie de sa vie. C'est un exemple pour moi de travail et de détermination quand j'ai commencé à devenir plus sérieuse dans mon taf. Et il était très content pour moi, ce qui est rare de la part d'un monsieur de 75 ans, quoi, qui ne comprend rien aux réseaux sociaux. Mais pour autant, il a toujours été très respectueux de ce milieu-là et il m'a toujours poussé à continuer. Et bref, du coup, mon papy m'a dit « Moi, je veux que tu fasses ce qui te rend heureuse, donc cette école, je vais te la payer. » Et du coup, c'est un geste incroyable. Je l'ai toujours remercié énormément parce que c'est grâce à lui que j'ai pu étudier dans un milieu qui me plaisait. C'est un geste que moi, j'aimerais faire à mes petits-enfants quand je serai une vieille dame. Merci, papy, si tu m'entends là où tu es. C'est grâce à toi. Oula, wouh! On parle de girlbossing, on ne va pas pleurer. Je me lance dans cette école en me disant, en plus, c'est mon grand-père et ma famille qui est derrière moi, donc je dois les rendre fiers. Et en fait, je fais les FAP avec mon ami Laure Stilto. On est devenus amis un an avant, quand j'ai eu mon bac en 2015, on est devenus amis et elle a décidé de faire les FAP et du coup, je l'ai suivi. Je fais les FAP et en fait, à les FAP, on a du coup beaucoup de pratiques et on a tous les ans graduellement des mois de stage. Donc en première année c'est 2 mois, troisième année c'est 3 mois, quatrième année c'est 4 mois, etc. Au fur et à mesure du temps, la réalité me frappait. Mon premier stage, je l'ai fait dans une agence de com parisienne, dans une petite agence qui s'appelle Foxy. C'est une agence qui est top. D'ailleurs, si vous cherchez des gens qui font du community management ou de la communication sur Paris, je les recommande. J'ai fait mon stage chez elle. C'était deux femmes qui avaient créé leur entreprise. Donc je sais pas pourquoi, mais je suis très 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 sensible à ça. Je suis très sensible aux gens qui créent leur truc. Aux gens, et d'autant plus aux gens jeunes. C'est quand même deux femmes qui ont dit « on aime ça et on va faire ça ». Pareil pour, par exemple, mon coiffeur Thomas Tucinardi qui a créé son salon de coiffure et qui est aujourd'hui un des premiers coiffeur français. Il est extrêmement doué et reconnu. J'admire énormément ça. Voilà. Bref, j'ai plein de gens que j'admire parce que j'admire l'entrepreneuriat chez les jeunes et j'admire les gens qui ont une passion et qui en font tout un truc et qui, du coup, créent leur empire. Quoi. Je trouve ça extrêmement admirable. Donc, je fais mon stage chez ces deux femmes. On est 5 dans l'entreprise, je crois. Je me rends compte que donc l'ambiance est cool. Hein. Franchement, là, l'ambiance en agence de com parisienne, j'avais très peur et c'était très cool parce que c'était à petite échelle. On était avec une agence de pub dans les bureaux et on était genre une vingtaine. J'ai du mal, franchement, en fait, ce qui me fait le plus chier, c'est vraiment les horaires. Je veux pas que mes propos soient mal pris, mais j'ai déjà à l'époque une vraie audience et je fais du contenu très fréquemment, je suis très régulière, je suis toutes les semaines sur YouTube. J'ai déjà des contrats et tout, je peux me payer un loyer à Paris à 800 euros par mois, quoi. Donc c'est très très sympa. Et je me lève tous les matins pour être à 8h30, 9h dans un bureau et faire du community management pour des comptes. J'ai bossé notamment pour le compte de Harley Davidson. Bref, pour des comptes Insta qui sont pas les miens. Ce que je fais dans un bureau tous les jours de 9h à 18h, je pourrais le faire pour moi, où je veux dans le monde, voilà quoi. Et du coup, ça commence à me peser parce que je me dis, en fait, c'est cool de bosser. J'apprends plein de choses, je rencontre plein de gens, ça c'est très très important. Même quand vous êtes à votre compte, en fait, faire du networking et faire du réseau, c'est primordial, c'est ce qui t'ouvre le plus de portes. Un, vous apprenez avec l'expérience des autres. Et deux, chaque personne est une porte vers une autre personne qui peut t'emmener vers un truc de fou pour grandir et pour avoir des contrats et faire évoluer ton entreprise. Donc bref, ça me pèse quand même de faire du contenu pour des comptes alors que je pourrais le faire pour moi-même. Et puis vient un deuxième stage en entreprise à Lyon, dans un gros groupe de radio. Donc là, c'est plus une agence de com un peu chill où j'allais faire des déj avec mes boss, on allait manger des ramen tous les midis, et aussi où j'avais une marge de progression, où on me laissait faire ce que je voulais. Ces boss d'agence, elles voulaient m'emmener quelque part, quoi. Elles voulaient me faire évoluer, donc j'allais en rendez-vous client avec elles. J'ai rencontré Renaud, j'ai fait des rendez-vous, des trucs trop cool où, en tant que stagiaire de deuxième année d'école de com, t'apprends beaucoup. Là, mon stage en radio, c'est plus du tout la même chose. Donc moi, je suis stagiaire pour les réseaux sociaux des radios. L'avantage d'être influenceuse et d'être encore en étude, c'est que mon CV, du coup, tapait dans l'œil des recruteurs parce que, en fait, quand t'as 20 étudiants et qu'il y en a une qui a déjà une communauté de 200 000 personnes sur Instagram, forcément, ça donne à croire qu'elle sait gérer ce genre de choses. J'avais été recrutée par ce groupe de radio où le boss m'avait dit « On va te faire venir ici ». Moi, je voulais faire de l'événementiel. En fait, je m'étais rendu compte qu'il fallait que j'apprenne autre chose, donc je voulais faire de l'événementiel. Il m'a dit « Ok, je te signe pendant 5 mois. On va ouvrir un pôle événementiel et tu seras en gros en gestion de ce pôle événementiel pour faire de l'influence, faire venir des influenceurs, faire de l'événementiel autour de la radio, machin. » Il s'avère que ce monsieur, je ne sais pas s'il m'a menti ou si à l'époque ça s'est pas goupillé comme prévu, mais le pôle événementiel n'a jamais ouvert, donc je n'ai jamais fait d'événementiel. En fait, moi, je savais que j'aimais la vidéo et tout, c'était ma passion, et du coup, j'ai dit « Ok, je vais faire ce que moi je fais pour moi, mais je vais le faire sur une animatrice de la radio. » Et je lui faisais faire chaque semaine un défi, donc je m'occupais de contacter des concepts à Lyon. Et on avait fait un truc de surf, un truc de crossfit, du karting, bref. Je contactais des entreprises qui avaient des activités un peu sympas. Je leur proposais le projet, on allait faire le tournage, je filmais, je faisais le montage. Et après, je faisais la promo et l'animatrice était un peu la star du concept, quoi. Sauf qu'en fait, je me suis vraiment très, 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 très vite ennuyée. C'était sympa ce projet-là et moi, ça me faisait voir des choses. Mais en fait, ça me prenait genre 3 heures de mon temps par semaine et je faisais vraiment exactement ce que je pouvais faire pour moi. Je m'ennuyais, quoi. J'étais vraiment assise dans un bureau. En plus, c'était un très gros groupe, donc du coup, c'est plus pareil. C'est pas si t'as 15 minutes de retard, c'est détente et tout là, non. C'était genre vraiment, si t'es pas à 9h pile assis sur ta chaise à faire semblant de travailler, t'es très très mal vu. Vraiment, moi j'ai du mal, j'ai énormément de mal avec la mentalité française dans les entreprises. On m'a confirmé plus d'une fois que, en effet, tu passais 70% de ton temps à travailler et 30% à faire semblant de travailler, mais bon, les horaires sont les horaires. On m'a recommandé de marcher dans les couloirs avec un dossier sous le bras pour donner l'impression d'être sérieuse. Mon boss me demandait d'arriver pile poil à 9h, voire à 8h50, mais de partir par contre, si je pouvais partir à 18h30 à la place de 18h pile, ça serait plus sympa, tu vois. Voilà, moi j'ai du mal avec le fait que dans les grosses entreprises françaises, on perd du temps, je trouve. On perd de l'efficacité à faire semblant de travailler. On manque de modernité. Je trouve que le télétravail, c'est cool parce que en fait, ça permet aux gens de bosser mieux, de pas perdre de temps à une heure dans les transports. Je trouve que tu peux être aussi efficace en concentrant ton taf sur 5 heures dans la journée et tu peux passer les 3 autres heures à faire des activités qui n'ont rien à voir mais qui vont t'aider à être épanoui et du coup être plus fort dans ton taf. Je sais pas, je trouve que j'aime pas la mentalité de se donner un air alors que bon, tu peux être très très doué dans ton taf et ne pas forcément être en costume et ne pas forcément passer 8 heures assis sur ta chaise de bureau. Voilà, donc moi j'ai eu beaucoup de mal avec ça en fait, ça m'a vraiment 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 pesé. J'évoluais pas et créativement j'étais pas du tout comblée. Je faisais des posts Insta pour un compte de radio qui collectait genre 20 likes alors qu'à côté ma communauté ne faisait que grandir. Et c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit, bah en fait, il faut que je me donne les moyens. Parce que ce que j'ai entre les mains de cette histoire d'Instagram, YouTube et tout, c'est de l'or. Je peux être ma propre boss. J'ai 21 ans et je suis chef de mon auto-entreprise. Je gagne un salaire qui est 4 fois ce qui est mon salaire de stage à côté. Donc je ne veux pas en fait avoir à m'asseoir dans une chaise de bureau et à bosser pour quelqu'un qui est un gros con au passage. Et à faire des trucs qui ne m'épanouissent pas alors que j'ai de l'or entre les mains et que je peux développer ce truc pour que ça devienne mon taf et que ça devienne vraiment voilà, quoi, mon gagne-pain et que ça m'épanouisse. Parce qu'en fait, je me lève quand je veux, je me couche quand je veux. Là, à l'heure où je vous parle, on est dimanche soir, c'est 20h57, j'enregistre mon podcast et ça va me prendre 2 heures de montage ensuite. Mais c'est pour moi et c'est quelque chose que j'ai pas fait, que j'aurais pas à faire demain matin, lundi, où je pourrais me lever potentiellement à 10h. Je le ferai pas parce que j'ai autre chose à faire, mais bref, je suis en gestion de mon emploi du temps et ce que je fais, c'est pour moi 100% ce que j'aime, c'est 100% ma décision. Mon agence prend 30% de mes revenus, mais il n'y a pas un monsieur que je connais à peine qui me calcule, qui me dit à peine bonjour et qui connaît même pas mon prénom, qui bénéficie de tout mon talent, quoi. Donc voilà, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que gagner de l'argent n'est pas égal à girl boss. Tu peux gagner de l'argent et être, pas du tout être carriériste, pas du tout être professionnel. Et c'est à ce moment-là, en fait, c'est vers mes 22-23 ans, que vraiment, le côté girl boss et le côté chef d'entreprise et le côté professionnel est apparu. Parce que vraiment, j'ai compris, en fait, que dans la vie, il faut travailler parce qu'il faut gagner de l'argent. C'est le béaba. Et que, en fait, j'avais la possibilité d'utiliser ce que j'ai toujours vu comme un hobby. En fait, je peux en faire mon métier et ça peut devenir 100% de mon temps et m'empêcher de vivre parce qu'en fait, à la fin de mon stage dans ce gros groupe, j'étais déprimée, genre. Ça se ressentait sur mon contenu en plus parce que du coup, j'avais pas le temps. Enfin, voilà. En 2019, où je commence à grandir et du coup, à de plus en plus m'intéresser à ça. Quand j'ai commencé mes études, je savais que je m'embarquais pour 5 ans et je me suis dit, si à la fin de mes études, j'ai encore l'influence, je le ferai à plein temps. Mais c'est un rêve parce que je pense que je ne vais pas tenir 5 ans. Genre, je pense que les gens vont se lasser, Instagram va arrêter de fonctionner. Voilà, j'étais sûr, enfin j'avais l'impression que c'était irréel que j'en vive. Sauf que je suis arrivé du coup à ma quatrième année d'études. J'en vivais de plus en plus. Mes statistiques ne faisaient qu'augmenter, qu'évoluer positivement. Donc j'ai signé en agence parce que ça commençait à devenir beaucoup. J'avais beaucoup, beaucoup de trucs à faire, de gestion de contrat et de travail dans mes études. Et du coup, je faisais tout un peu mal. Je sais pas pourquoi, j'avais jamais été démarché. Et en septembre 2019, j'ai été démarché par Follow et Point.org, parmi les plus grosses agences d'influence de France. J'ai été démarché exactement en même temps par les deux agences. Donc, j'ai fait des rendez-vous avec les deux agences. J'ai essayé de voir qui comprenait le mieux. Follow, j'ai aimé ce côté. Je trouve qu'ils sont très, très smart, les créateurs de Follow. Ruben, Sam et Nathan, ces 4 amis qui ont créé cette agence-là. Je trouve qu'ils ont une vision, je les admire. La créatrice de Point.org qui s'appelle Karine est aussi une girl boss pour le coup et je l'admire aussi. Mais je sais pas, Follow, il y avait un truc en plus. Il y avait l'or et du coup j'étais rassurée sur le fait que ça allait bien se passer pour moi également. J'ai signé chez Follow et là tout a changé en fait. Je suis devenue beaucoup plus professionnelle. J'ai compris en fait qu'il fallait facturer tous les mois, j'ai compris qu'il fallait être carré, qu'il fallait rendre les previews 2 jours en avance pour que la marque valide, demande des changements, que pour que la marque ne demande pas de changement, il fallait que mon contenu soit le plus exemplaire possible et le plus qualitatif. Mon agence, ils m'ont aidé à me cadrer à ce que mes contrats soient lus par un avocat et que du coup soient corrects, que j'ai un kit média qui est un document qui regroupe mes tarifs et qui regroupe mes statistiques qui est automatiquement envoyé aux marques pour qu'ils puissent voir combien je coûte. Parce qu'en fait, c'est très compliqué quand t'es jeune et que tu t'es dans un business un peu nouveau de se monnayer, genre. J'ai, grâce à Follow, découvert ce côté girl boss. J'ai découvert la régularité. Au début, c'était compliqué. Mais j'ai découvert voilà, le professionnalisme.
Que c'était un travail. Parce qu'avant, pour moi, vu que c'était juste ma passion, je pense que c'est le cas de tous les gens qui sont passionnés par leur travail, t'as jamais l'impression de vraiment bosser. Et surtout, je le comparais avec mes stages en entreprise horribles où je me disais, bah, ça, c'est du travail, quoi. Et en fait, j'ai découvert que non. Que en fait, c'était un métier et que je pouvais être très sérieuse, très organisée et réfléchir davantage à mes contenus, être stratégique, faire des vraies strates pour que tout ça ait du sens pour moi, pour ma communauté, que ça reste divertissant, me renouveler. Je pouvais dépasser le fait de juste faire un placement de produit. Je pouvais faire un truc autour qui était beaucoup plus enrichissant. Quand je rentre en fait de Croatie, j'étais en Erasmus, je rentre de Croatie, il y a le confinement. Je mets un pied vraiment dans l'entrepreneuriat, notamment avec mon projet de co-création de Rosé. En fait, j'ai eu en Croatie ce truc de... J'ai pensé au fait de faire ma propre cuvée de Rosé. Parce que je voyais les filles sortir des agendas, des trucs, machin. Moi, j'avais envie de commencer à tester tout ça. Mais en même temps, je me sentais pas de faire un agenda ou de faire un, je sais pas, un, des suites ou quoi. Je trouvais que ça me ressemblait pas à l'époque. Donc, je m'étais dit, ok, j'aime la fête, ça se sait. J'aime le vin, le rosé, c'est un truc universel. C'est léger, c'est moins alcool et moins trash qu'une vodka, quoi. Donc, j'ai envie de faire vivre mon expérience avec le rosé en mode été, coucher de soleil, voilà, il y a tout un truc pour moi autour du rosé, c'est un moment partagé. Et je voyais tout le concept autour et je m'étais dit, j'ai envie de faire ma cuvée. J'ai du coup dû faire une présentation pour convaincre des potentiels cavistes, des potentiels partenaires, des potentiels vignobles de bosser avec moi, en faisant une strat, en faisant un moodboard et tout, ce que je fais maintenant, mais toutes les deux semaines, genre, enfin j'exagère, mais ce que je fais maintenant très très fréquemment, mais à l'époque c'était pas du tout dans mes habitudes. Et du coup, l'école, ça m'a aussi beaucoup appris sur ça, sur faire du moodboard, faire de la veille, faire des benchmarks, voilà. L'amont, en fait, est aussi important que le vrai projet en lui-même, la préparation, la visualisation et tout, bref. Ce projet de rosé prendra 2 ans, hein, se fera très très difficilement. J'ai fait un nombre de calls, un nombre de rendez-vous, j'ai rencontré énormément de professionnels du milieu du vin, donc ce qui m'a appris aussi plein de choses, ce qui est trop cool, mais j'ai vraiment vraiment galéré jusqu'à 2022, là où j'ai enfin cette année réalisé my dream. J'ai sorti ma co-création de rosé avec Côte des Roses, avec le rosé par un RVR qui était une box. Et du coup, on a en fait fait toute une stratégie, autant graphique, visuelle, une strat de com sur 3 mois pour la promo de ce rosé. J'ai créé du coup un contenu YouTube où j'ai dû faire un peu de la prod en louant une maison, en louant un bateau, en faisant une collaboration avec un loueur de bateau, en faisant du coup toute une strat sur plusieurs mois avec ce que j'avais jamais fait auparavant, avec mes contenus prévus à l'avance, ce qui concordait le mieux avec la saisonnalité et tout. Bref, j'ai vraiment fait toute une stratégie. J'ai vu un projet naître et j'ai vu un projet se terminer, faire de un événement pour l'annonce. Enfin bref, tout ça, je me suis dit, mais en fait, ça me fait tellement kiffer que je veux que ce soit mon quotidien. Je suis passée en société il y a 1 an. J'ai pris une comptable, pris des rendez-vous avec mon banquier et j'ai du coup développé cette fibre entrepreneuse que j'ai depuis toujours, mais sans le savoir en fait. Créer toute une communauté autour de ma personne à 14 ans, ça veut quand même dire que j'avais quelque chose en moi qui était de la nature de l'entrepreneuriat. J'ai des idées de concept tout le temps, j'ai des idées d'entreprise tout le temps. Moi, je me visualise vraiment dans l'avenir comme une chef d'entreprise. Et c'est marrant, j'en parlais avec Laure. Enfin, j'en parle beaucoup avec Laure depuis la fin de nos études parce qu'on se demande du coup où l'avenir va nous emmener. Je pensais que tout le monde était comme ça, mais en fait pas du tout. Propre à chacun son avenir et ses envies. Laure, elle est beaucoup plus dans l'artistique et moi je me vois vraiment en mode business. Je me vois en mode business fun toujours, mais j'ai envie de créer mes entreprises, j'ai envie d'être à la tête d'une entreprise ou de plusieurs entreprises. Tous ces corps de métier, de tous les fréquenter, d'apprendre plein de choses. J'ai 1500 idées qui se réaliseront probablement jamais, ou qui se réaliseront, comme je l'ai appris avec le rosé, sous un format complètement différent. J'ai fait une vidéo qui s'appelle « Réaliser ses rêves » sur YouTube, à propos de mon projet de rosé, mais du coup, je parle de la création d'un projet comme celui-ci, et c'est très intéressant si c'est un sujet qui vous plaît. Tu peux avoir 1000 idées, l'idée A sera complètement différente une fois qu'elle sera concrétisée, ce sera une idée Z, mais c'est pas grave, moi j'ai envie de faire tout ça. J'ai la chance d'avoir à mes côtés Lisa, qui est mon agent, et grâce à Lisa, donc ça fait maintenant 2 ans qu'on bosse ensemble, grâce à Lisa, j'ai développé ce truc-là où vraiment je suis... Elle a la même vision que moi, elle a les mêmes idées que moi, elle a la même appétence pour la créativité et elle a les mêmes rêves que moi. Et du coup, on se tire toutes les deux vers le haut. Chaque fois que j'ai une proposition avec une marque, je refuse 70% des propositions, mais quand j'accepte, on fait en sorte de créer un truc autour pour que la collab soit un vrai projet et pas juste un placement de produit. J'ai une collab avec Tinder qui arrive prochainement. Tinder, à la base, nous ont dit juste on veut un placement sur YouTube. Et avec Lisa, on s'est dit, mais en fait, il y a un truc à faire. On a développé une idée génialissime, vous allez tellement kiffer. Ça a pris 3 rendez-vous avec des commerciaux et des chefs de projet chez Follow, avec des créatifs chez Follow, pour aboutir l'idée. Lisa a dû faire une presse à la marque directement pour débloquer un énorme budget de production. Je découvre aussi tous ces métiers et c'est génial. Mais du coup, le projet sortira sûrement en début 2023. Vous allez kiffer, vous allez voir. J'aurais pu juste placer l'application vite fait dans une vidéo, mais je me dis, en fait, j'ai la chance d'avoir des équipes et des gens qui bossent avec moi, qui ont aussi eu fin de découverte et fin de créativité et fin de progrès. Et du coup, bah, ça me permet de faire tout ça et de m'épanouir dans le professionnel, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Je plaçais le pro vraiment en dernier sur ma liste des choses qui me font plaisir dans la vie. Et depuis vraiment ouais, 1 ou 2 ans, c'est quelque chose qui, bah, depuis qu'en fait, j'ai fini mes études et que je m'y consacre, c'est quelque chose qui m'épanouit, qui me rend vraiment heureuse, qui me permet d'avoir un vrai sentiment d'accomplissement. C'est vraiment devenu mon moteur, c'est vraiment devenu ma priorité. J'ai créé le podcast il y a 9 mois. Oh, mon enfant. J'ai créé le podcast il y a 9 mois. Le calendrier contre-soirée, c'est un truc, personne ne m'a demandé de le faire. Mais en fait, j'ai eu envie, moi, de construire un truc autour de ça pour amener encore une fois autre chose et essayer de voir ce qui marche, de voir ce qu'on peut créer de différents, de voir comment on peut utiliser ce projet pour en faire un autre. Enfin voilà, j'ai pas vraiment de collègues, j'ai des amis, enfin j'ai des gens qui font de l'influence, mais c'est pas vraiment mes amis. J'ai des copains influenceurs, mais on n'est jamais trop amené à bosser ensemble. Et moi, ce qui me plaît vraiment, je pourrais être très malheureuse dans ce métier-là où tu peux en soi bosser toute seule, où je pourrais bosser qu'avec Lisa. Je mets un point d'honneur à déjà être très souvent dans mon agence, dans les bureaux, et quand j'ai des projets, parler directement avec les gens qui bossent avec moi, à rencontrer les marques autour de déjeuner, de café, pour parler avec les gens avec qui je bosse. Ce qui me plaît dans les projets comme Contre-soirée, le calendrier, c'est que là, j'ai bossé avec un photographe, une maquilleuse pour les photos, 2 graphistes avec qui je suis en contact quotidiennement. Et donc, ça me fait kiffer en fait, de faire aussi marcher et travailler des gens de mon âge qui ont créé leur auto-entreprise ou leur société et qui, eux aussi, bossent pour eux-mêmes. Je trouve ça génial, quoi. Ça me donne l'occasion de rencontrer plein de gens, de travailler avec des gens de mon âge qui ont la même vision que moi, qui font pas semblant, qui veulent juste faire ce qu'ils aiment et qui mettent du cœur dans leur travail, et c'est génial. Donc voilà, c'est vraiment trop bien. Pour conclure cet épisode qui est super long, mais en fait c'est un sujet qui est super intéressant, aujourd'hui mon intitulé est littéralement chef d'entreprise. Je suis chef de ma société. Mon salaire me convient parfaitement, je cherche maintenant à apprendre à placer mon argent, mais du coup voilà, j'essaie de plus en plus d'être sérieuse à ce niveau là moi je sais que la vie me réserve 1000 trucs, c'est ce qui m'aide à me lever le matin. En fait, la routine, moi, elle me tue. La routine dans le sens, par exemple, si j'étais dans une boîte et que j'allais faire ce que je fais dans cette boîte pour le restant de mes jours, je pense que j'aurais du mal. Là, ce qui me fait du bien, c'est de me dire, ok, je fais un truc, demain je ferai un truc complètement différent, après demain je ferai un truc complètement différent. Je ne sais pas où je serai dans 1 mois, je ne sais pas où je serai dans 6 mois. Je peux avoir des opportunités infinies et surtout, je suis confiante sur le fait que dans les prochaines années, je vais créer d'autres entreprises et je vais faire d'autres business. Je suis contente de où Anna RVR, l'influenceuse, est actuellement. En toute honnêteté, ma communauté, elle me plaît et j'ai pas forcément envie d'avoir plus de monde. J'ai envie de gagner ma vie. J'ai envie d'avoir des beaux contrats, mais d'avoir plus d'abonnés, c'est pas un truc qui me motive du tout. Honnêtement, j'ai de la chance parce que dans l'influence et dans le lifestyle, c'est pas du tout un problème d'être une femme, au contraire. Je pense que c'est un des milieux où c'est le plus simple d'évoluer. Je me suis pas fait chier, je me suis vraiment mise dans l'endroit où j'étais attendue. J'en ai parlé avec des femmes en disant, franchement, on a de la chance, l'influence, c'est vraiment pas un problème, la place de l'homme au milieu de tout ça. Et ces femmes m'ont dit, pas du tout, c'est parce que toi, t'es dans le lifestyle. Mais les femmes dans le gaming, par exemple, c'est catastrophique et elles doivent se battre pour faire leur place tout le temps. En effet, donc en vrai de vrai, j'ai de la chance, mais je sais que j'ai des collègues qui galèrent plus. Moi, le seul truc qui a été compliqué pour moi, c'est que ce titre d'influenceuse et ce métier-là est pas forcément un compris et deux respecté. C'est pour ça notamment que quand il y a la polémique avec Magali Berda, je fais un épisode de podcast avec Bastos pour parler de ça parce que j'ai envie de montrer que non, on n'est pas juste tous à Dubaï en train de placer des blanchiments dentaires, quoi, pas du tout. C'est pour ça que le projet comme le podcast, c'est des choses qui me sont très chères parce que c'est ce qui me permet de me sentir crédible et d'être crédible aux yeux des gens. Je m'engueule très souvent avec mon frère, par exemple, mon petit frère qui dit que je suis en vacances toute l'année parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte de ce que ça implique. Je suis d'accord, c'est un métier qui coule, mais c'est quand même être chef d'entreprise, les gars, ça reste une charge mentale et une pression énorme, même si c'est dans un milieu très sympa sur les réseaux sociaux et qu'on a l'impression que tout est cool et chill, c'est pas forcément le cas. Et du coup, je réfléchis tout le temps, je suis tout le temps en train d'y penser, donc ça me prend du temps. Ce que je recommande, en fait, mes conseils, si vous avez envie de vous lancer, si vous avez envie de créer votre entreprise, de créer votre plateforme sur les réseaux, de créer quoi que ce soit, c'est qu'il faut de la persévérance. Je trouve que TikTok, nous le prouve très bien. Tu peux faire des TikTok pendant 3 mois, personne te calcule, il y a un truc qui pop et tu deviens une resta. Je trouve que les réseaux, c'est à la fois apeurant et à la fois génial parce qu'en fait, tu peux créer une carrière. C'est un peu la génération Kardashian, quoi. Tu peux créer une carrière. Moi, personnellement, je ne suis pas plus talentueuse qu'une autre. J'ai pas un talent, je suis pas footballeuse, je suis pas musicienne, chanteuse, j'ai pas un truc différent. Mon seul talent, c'est de savoir parler aux gens et divertir les gens. Et du coup, j'ai créé une carrière grâce à ma personnalité, quoi. Et c'est l'avantage des réseaux sociaux. Donc voilà, pour moi, il faut être persévérant, il faut être régulier, très 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 important. Il faut pas avoir peur de se mouiller. Vraiment, mettre les pieds là où on se sent pas à l'aise, c'est ce qui fait que tu débloques des trucs de fou. Moi, à chaque fois où j'ai mis les pieds, où je me sentais pas à l'aise et où j'étais pas dans ma zone de confort, il y a une opportunité qui s'est débloquée, il y a une rencontre qui s'est faite, il y a un projet qui s'est concrétisé. Donc vraiment, c'est normal de ressentir un sentiment d'inconfort et croire en votre projet. Je pense que le plus important aussi, c'est de croire en ce que vous faites. À partir du moment où votre projet il vous ressemble et c'est quelque chose que vous aimez profondément et que vous savez de quoi vous parlez, ça marchera. C'était ma tirade sur le girl bossing et l'entrepreneuriat. En tout cas, le plus important, moi je me suis jamais dit, la Anna Ado qui a créé sa chaîne YouTube ne s'est jamais dit « je suis une femme, donc ça va moins bien marcher. Est-ce qu'en tant que femme, je peux le faire ?» Il faut juste avoir confiance en soi. Je me dis, en fait, il y a déjà assez de gens autour qui vont mettre des bâtons dans les roues. Si mon propre esprit m'en met, on va pas avancer. Donc du coup, dès que j'ai un doute, genre dès que j'ai par exemple une proposition d'OP où je suis en mode, genre par exemple là pour le podcast, j'ai eu une énorme proposition. Je veux pas en parler parce que je suis pas sûr à 100%, mais une proposition incroyable. Et tout le monde m'a dit « mais t'es pas trop stressée ?» Et en fait, je me laisse même pas le temps d'être stressée. Je me dis juste « prends ». Et je vois ça un peu comme une échelle et j'ai l'impression que je grimpe des barreaux de cette échelle au fur et à mesure du temps. Donc voilà, on se met dans des situations confortables, on a confiance en soi, on peut le faire. Si vous n'avez pas envie de créer, d'entreprendre, de développer des trucs, c'est tout aussi génial. Ça fait de vous une femme tout aussi intéressante et incroyable. C'est juste que moi, c'est ce qui me définit et ce qui me différencie, donc il faut que j'en parle. Et si ça peut aider quelqu'un, c'est génial. Pour finir tout ça, le DM du lutin du jour, c'est un lutin un peu triste, donc j'avais envie de lui redonner le moral. C'est Mathilde qui m'écrit pour son amie Josie, qui veut lui faire passer un message. Elle me dit que Josie vit une période très compliquée en ce moment, et elle aimerait lui dire que tout ira bien, qu'il ne faut pas qu'elle s'en fasse trop et qu'elle profite de la vie malgré toutes les difficultés qu'elle traverse. Après la pluie, le beau temps, c'est bateau, mais c'est très très vrai. Donc voilà, Josie et tout le monde, I love you guys, je vous fais plein de bisous, merci de me suivre, hein. Merci d'être à côté de moi depuis toutes ces années ou depuis quelques jours seulement, mais c'est grâce à vous aussi que ça marche, c'est même 100% grâce à vous. Moi je vous dis à demain pour de nouvelles aventures, gros bisous, bonne semaine, bon début de semaine, que ciao!
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.